Lyon Demain, le média influenceur d'avenir.
À Confluence, l'ancienne Algirard abrite depuis 2019 le H7, un incubateur qui abrite quelques 70 startups, parmi lesquelles Hello Charlie, la première application d'orientation gratuite. Elle permet un suivi personnalisé pour orienter le parcours étudiant et revendique plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs. Nous avons rencontré sa fondatrice, Fatma Chouayeb.
Hello Charlie, c'est une application qui aide les jeunes à s'orienter, à trouver leur voie, et donc de façon personnalisée, ils apprennent à mieux se connaître, découvrir des secteurs et des métiers qui leur correspondent et passer à l'action en concrétisant un choix de formation ou d'emploi.
C'est quoi ? C'est une application ?
C'est une application qu'ils peuvent télécharger sur un store et qui leur permet, à travers plusieurs modules pédagogiques, d'apprendre à construire leur projet professionnel de façon personnalisée. Donc, ce n'est pas le même parcours en fonction de leur classe, de leurs besoins, de leur situation géographique. Et donc, en fonction de tous ces paramètres, l'expérience sur l'application, elle est personnalisée pour leur apporter les bonnes réponses.
C'est quoi la problématique et qu'est-ce que vous apportez comme solution alors ?
La problématique, c'est que l'orientation, c'est souvent l'angoisse pour les jeunes. C'est très difficile pour eux, notamment au lycée, de savoir s'orienter et de trouver les formations qui leur correspondent. Ils sont 70% globalement au lycée à se dire perdus face à leur choix d'orientation. Donc c'est pour les aider à y voir plus clair, leur apporter une méthode pour s'orienter et enfin tout au même endroit, au niveau de l'information sur les métiers, l'information sur les formations. Tout est simplifié pour eux au niveau de l'orientation pour que ce soit une expérience agréable, fluide et qui leur parle.
Et c'est une application qui s'appuie sur l'intelligence artificielle, la fameuse IA dont on parle beaucoup actuellement. C'est quoi l'IA chez vous ?
L'IA chez nous, ça fait 10 ans déjà que ça a commencé parce que l'expérience sur Hello Charlie s'appuie sur un chatbot. Donc concrètement, un jeune discute avec Charlie comme si c'était son ami. Charlie le tutoie, lui envoie des gifs, des smileys et l'interroge. Il le met dans une posture où il va se questionner pour essayer de découvrir ce qui existe et petit à petit dérouler le fil qui va lui permettre de construire son projet d'orientation. Donc Charlie est un chatbot, c'est donc une intelligence artificielle qu'on construit à partir de toutes les réponses des jeunes et qui apprend de manière automatique pour personnaliser de plus en plus ses recommandations.
Il y a de l'humain quand même derrière ?
Bien sûr, Charlie ne saurait pas exister s'il n'y avait pas de l'ingénierie pédagogique, du développement. Hello Charlie, c'est même une réponse qui est construite de la part des bénéficiaires. On a une communauté de jeunes bénéficiaires qui sont les premiers testeurs de l'application et premiers à concevoir les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux modules pour apporter une expérience qui plaît aux jeunes.
Votre cible, c'est quoi ? C'est principalement les jeunes des quartiers défavorisés, par exemple ?
Globalement, les 16-25 ans, c'est le cœur de cible de Hello Charlie. On peut commencer très tôt dès le collège, aller encore plus loin jusqu'à l'entrée en formation, en emploi, jusqu'à l'âge de 30 ans. C'est tous les jeunes et 40% d'entre eux viennent effectivement des quartiers prioritaires.
Et vous avez une démarche qui est un peu particulière, qui est d'aller chercher les jeunes et de ne pas se contenter de les accueillir quand ils, à leur bon vouloir.
Oui, souvent on dit que c'est difficile de trouver les jeunes. On a du mal à les avoir dans les salons d'orientation, dans les journées portes ouvertes. Donc au lieu de rester passif et attentif, on va les chercher directement là où ils se trouvent, donc sur les réseaux sociaux, dans lesquels ils passent plusieurs heures par jour, en moyenne 5 heures par jour sur les réseaux sociaux. Et c'est là, dans leur quotidien, qu'on va leur apporter l'information et leur donner envie d'utiliser l'application Hello Charlie.
Vous avez trouvé refuge, entre guillemets, au H7. Qu'est-ce que ça vous apporte depuis 2019 ?
En plus des locaux, de pouvoir grandir, accueillir une équipe de plus en plus nombreuse et investie chez Hello Charlie. On a de l'expertise métier, donc on a des clubs sur des thématiques qui sont importantes pour nous, comme la communication, comme les relations presse, comme les éléments financiers, comme la partie juridique. On a beaucoup d'expertise qui vient. Et puis, le H7, c'est un lieu de passage dans lequel plusieurs entreprises passent. On a les occasions de pitcher, de présenter nos solutions et du coup, de faire affaire avec tous ces grands comptes, ces entreprises qui viennent chercher des solutions innovantes et nouvelles.
Que se passe-t-il après H7 ?
C'est pouvoir continuer à grandir. Hello Charlie, aujourd'hui, c'est 800 000 jeunes accompagnés au total. Nous, le jour où on accompagnera 800 000 jeunes par an, on aura vraiment réussi notre mission.
La Algirard, réhabilitée par la SPL Lyon Confluence et la métropole de Lyon, est devenue le lieu totem du numérique dans l'agglomération lyonnaise. Mais l'ancienne halle industrielle ne suffit plus et va devoir s'agrandir. De 400 postes de travail, le H7 va doubler sa capacité pour accueillir de nouvelles pousses. Emeline Baume, vice-présidente de la métropole déléguée à l'économie.
Les entreprises, elles peuvent rester 3 ans, voire un peu plus. Et ce qu'on a observé, c'est que la plupart d'entre elles, parce qu'elles vivent du collectif à cet endroit-là, à Confluence, elles ont envie de rester dans le quartier de Confluence pour garder les liens qu'elles ont tissés. Or, sur le quartier de Confluence, il y a pu avoir des pépites à prix abordable, donc des bureaux, voire même un petit peu de locaux d'activité, mais il n'y en a pas tant que ça. Et donc, l'interpellation du collectif du H7, ça a été de dire à la métropole de Lyon, entre autres, voilà, est-ce qu'on pourrait travailler ensemble avec l'outil qu'est la SPL Confluence à la sortie de terre d'un nouveau bâtiment qui permettrait d'accueillir les entreprises en croissance qui ont été incubées au H7, qui souhaitent avoir un loyer abordable, qui correspond à leur étape de développement de croissance et qui leur permette de rester dans ce collectif et physiquement sur le quartier de Confluence. Donc c'est le sujet de la parcelle F13, si je me trompe pas de nom, qui permet très demain, donc dans un horizon 3 ans à peu près, d'avoir un nouveau bâtiment qui accueille un petit peu d'activité et du bureau, du tertiaire, à prix abordable, avec à peu près 400 à 500 postes de travail. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir du collectif.
Tout à l'heure, vous avez parlé de parcours immobilier. Alors, ça, on l'entend plus pour, je dirais, les particuliers. Mmh. Et aujourd'hui aussi pour les entreprises.
Oui, sur la métropole de Lyon, mais je pense sur tous les territoires. La responsabilité des pouvoirs publics, c'est vraiment de permettre aux habitants et habitantes qui entreprennent d'avoir un parcours résidentiel, comme on a un parcours résidentiel un peu bloqué dans le logement. Et bien là, c'est de se dire, souvent, on est accompagné en incubation pour nous dans le région Olive, auprès d'Alter Incube, de Grappe, de Rhône-Alpia, dans des pépinières, dans des pôles livres. Et puis, au bout de 3 ans, quand on termine son incubation, on est éventuellement 2-3 dans son entreprise, quel que soit le statut de l'entreprise, et il faut arriver à trouver un endroit où se poser, où penser si c'est juste du bureau et où produire, transformer, réparer si c'est de l'activité. Il faut trouver des mètres carrés abordables, alors supérieurs à ce qu'on paye en tant qu'entrepreneur dans un lieu d'incubation, mais quand même inférieurs au loyer dit prime qu'on peut avoir à Pardieu, à Vaise, à Gerland ou ici à Confluence. Et donc la responsabilité de la métropole de Lyon ici avec la ville de Lyon, c'est d'utiliser tous les outils qu'elle a à sa main, par exemple les sociétés comme les SPL, donc les sociétés publiques locales, où finalement on injecte de l'argent public pour pouvoir faire des péréquations et avoir sortir de terre des bâtiments frugaux et sobres avec des investisseurs qui portent, mais aussi avec des formes d'engagement qui font qu'on a des loyers modérés.
C'est une sorte d'intermédiaire entre l'incubateur et le lieu définitif.
Tout à fait. C'est important, je pense, vraiment, de donner ces perspectives-là, au même titre qu'on donne des perspectives à un jeune qui peut-être un jour va vivre en colocation, ensuite avoir une famille, ensuite peut-être vivre seul. Et ben là, c'est pareil. Là, une entreprise, elle a une vie et il faut avoir la diversité des solutions. On a les solutions initiales, pôle livre, pépinière, incubateur. Il faut avoir l'intermédiaire avant d'avoir les grands plateaux qu'on a ici à Confluence, à Pardieu, à Gerland et dans le 9e.
Cédric de Noël, le président de H7, nous a fait visiter le bâtiment historique avant d'évoquer son extension future.
C'est un lieu, déjà un accélérateur responsable, qui a d'abord été le lieu totem de la French Tech, ensuite le totem du numérique. On évolue avec notre temps et notre époque. Ce qui est le plus important pour nous, c'est d'être un lieu, d'avoir des boîtes qui sont en croissance au niveau business et impact et d'avoir un lieu dans son époque.
Alors il y a 440 postes actuellement, c'est ça? Comment ça s'organise à l'intérieur? Faites-nous visiter un petit peu.
Vous arrivez dans un grand hall qui doit faire 12 ou 14 mètres de hauteur sous plafond. Ensuite, dans ce hall va se passer tout ce qui est café, déjeuner, un petit peu d'espace de coworking également. Ensuite, on a 4 espaces à peu près identiques, 2 à gauche, 2 à droite. Au rez-de-chaussée, on a plutôt des open space, aux étages plutôt des bureaux. Et en gros, sur les 440 postes, vous en avez 2/3 qui sont en open space et 1/3 qui sont en bureau.
Et vous avez un projet de vous étendre, de créer 500 postes supplémentaires. Comment vous faites dans ce lieu historique et patrimonial qui a des limites, qui a des murs bien définis?
En fait, il y a une vraie volonté déjà politique de pouvoir agrandir ce bâtiment et ce concept. Donc ça veut dire que ça va passer par la construction d'un bâtiment neuf. Donc on va être en dualité entre l'héritage patrimonial industriel qui est très important pour nous et un projet d'innovation même sur ce que c'est que les bureaux de demain. Donc les enjeux sont même éthiquement et même intellectuellement très excitants. Donc on va pouvoir agrandir ce bâtiment 500 un peu plus de 500 postes en plus, qui vont être dédiés plutôt à des boîtes qui seront en deuxième unité de parcours, c'est-à-dire plutôt des boîtes de 15 à 50 personnes. On aura plus de bureaux, il y aura plus d'espaces partagés avec des salles dont l'utilité va être plus définie. Je parle de salles de podcast, de salles de communication, des salles de réception, de réceptifs, et tout ça va être inclus dans le loyer. L'objectif, c'est de pouvoir partager des usages que les gens ne pourraient pas se payer s'ils étaient dans des immeubles traditionnels, de bureaux par exemple. Donc on va être énormément sur la notion de partage et on va aussi responsabiliser nos locataires, c'est-à-dire que quand vous avez 4 salles de réunion, vous en avez 4, vous n'en avez pas 5, donc faites en sorte de ne pas faire vos réunions au même moment. Voilà, donc on va essayer de les responsabiliser et l'objectif aussi c'est de les faire passer de locataires consommateurs à de locataires acteurs, notamment dans la notion de énergivore, de comment est-ce qu'on fait pour que le bâtiment devienne frugal aussi dans sa consommation énergétique.
Parce que la solution c'est ça, c'est pour continuer à avoir des loyers modérés, il faut faire dans la frugalité.
Il faut faire dans la frugalité, il faut qu'on sorte du gilet d'âge d'une personne pour 10 mètres carrés, parce que ça nous a été imposé. On pense qu'on peut travailler autrement. Comme je disais aussi, le lundi est différent du mardi, qui est différent du mercredi. Les hommes et les femmes travaillent pas de manière identique, sur des créneaux identiques. Le télétravail a quand même pas mal bousculé tout ça. Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir un bureau de 200 mètres carrés quand on est 20, alors qu'on pourrait en avoir peut-être 90 et ça suffit si on partage le reste?
Parce que personne n'est jamais là en permanence, tout le monde n'est pas là en permanence.
Non, à part éventuellement le lundi matin qui est un peu sanctuarisé et tout, mais c'est là où je parlais de passer les locataires d'acteurs. C'est-à-dire que à partir du moment où vous savez que vous êtes frugal et que vous êtes dans le partage, vous partagez aussi votre organisation d'entreprise. Et vous faites en sorte que votre réunion d'équipe, tout le monde ne les fasse pas le lundi matin pour avoir la grande salle de réunion. Et vous le décalez au mardi matin et du coup, c'est... La frugalité, elle demande aussi des efforts de chacun. Donc les usages et la façon de travailler, quand vous êtes, en coloc ou tout seul, c'est différent.
Le projet d'agrandissement devrait voir le jour à l'horizon 2027-2028 sur un terrain situé entre le quai Perrache et les futurs espaces publics du Champ. 4000 m² de surface, avec toujours cet esprit de proposer du tertiaire abordable dans un quartier de la Confluence où les prix du mètre carré avaient plutôt tendance à s'envoler ces dernières années.